Bien, merci d'avoir bravé le froid pour venir assister à notre conclusion. Voilà, j'ai demandé à Madame Zarnouche de vous distribuer une tentative de traduction complète des deux textes qui nous avaient le plus obsédés pendant cette enquête, à savoir les deux derniers chapitres de la première gatha, qui constitue ce que j'ai appelé son moment sacrificiel. Alors, voyez, ce que je vous fais un petit rappel méthodologique d'abord, si vous permettez. Tous les travaux sur les gathas ont la même forme. On commence par la première strophe et on finit par la dernière, bien sûr, en tentant de résoudre les problèmes au fur et à mesure où ils se présentent. C'est un principe de déchiffrement des textes. Donc nous avons en principe le texte, sa traduction, le commentaire, tout cela selon un principe linéaire. Il y a plusieurs années déjà que Karl Hoffmann, oralement, m'avait dit que nécessairement l'élucidation des problèmes particuliers, ceux justement que l'on rencontre progressivement lorsqu'on lit le texte, ne s'améliorait plus qu'au compte-gouttes. Depuis les années de la traduction de Humbart en 59, puis les quelques interventions de Hoffmann lui-même dans les 20 ans qui ont suivi, effectivement, disons la traduction d'Insler, les interprétations ultérieures de Humbart, celle de Pirard et moi aussi, qui est surtout syntaxique, peu de problèmes qui tiennent à l'identification des mots étaient encore résolus. Alors Karl Hoffmann pensait qu'il fallait uniquement se préoccuper, essayer une fois un autre procédé. Ne se préoccuper, disait-il, que de ce qui était clair. Ne pas tenter à tout prix de résoudre les difficultés. Stop, c'est ce que nous avons fait. C'est comme cela que nous avons procédé. Là, nous sommes partis du texte en le dépouillant de ses obscurités, en ne faisant fond pour notre analyse que sur ce qui était clair. Nous avons choisi pour faire cela une approche thématique aussi. Le rituel d'abord et l'eschatologie ensuite. Alors maintenant, je vous propose en guise de conclusion, en guise de résumé aussi de tout ce que nous avons fait, de mettre ce que nous avons acquis en procédant ainsi, par fragments, à l'épreuve du tout et de tenter une interprétation générale pour observer si elle bénéficiait de ce que nous avions appris en procédant de manière fragmentaire. Alors, peut-être ce qui, l'acquis majeur que nous devons vérifier, c'est ce que nous soupçonnons à présent sur la situation de référence. Car nous avons fait le diagnostic que ce qui était la difficulté que présentait le texte gathique, certainement, bon, il y a des difficultés linguistiques de tout type, il y en a, elles sont inexplicables, mais aussi la difficulté que nous avons à les comprendre, c'est nous ignorons la situation de référence, la situation pour laquelle elles servent de récitatif. Alors, si vous voulez, nous allons commencer. Vous avez une traduction du Yasnat complète. Ce n'est pas un chef-d'œuvre littéraire. Je ne me sens pas tout à fait capable, dans l'état actuel des choses, de faire une traduction qui ait quelque mérite de ce point de vue-là. Vous voudrez bien l'excuser, mais vous voyez bien aussi que cette situation, ce déficit littéraire, tient aussi au fait qu'il faut procéder d'une part de telle sorte qu'on laisse sentir où sont les incertitudes et aussi que l'on tente une traduction qui ne soit pas trop interprétative. Alors, première strophe, j'ai traduit les premières strophes du Yasna 33. Les premières strophes du Yasna 33 prolongent le Yasna 32 en ce sens qu'elles appartiennent à la face blême de la rhétorique. C'est un apayasna, une déprécation. C'est une malédiction jetée sur l'adversaire et les quatre premières strophes appartiennent à ce genre. Alors, nous allons les lire et les commenter. Le commentaire sera évidemment irrégulier. Il sera parfois très bref, il sera parfois un peu prolongé. Ainsi que tu l'as désiré, on parle à Mazda, ainsi vont être accomplis les actes les plus directs. Ce qui est rectilinéaire est toujours important. Là, je traduis par direct, je ne traduis pas par droit, parce que l'on pourrait, dévier sur les sens dérivés. Les actes les plus directs de l'état d'existence premier. Vous me laisserez le bénéfice de laisser les problèmes posés par le mot « à vous » état d'existence pour nos préoccupations de l'an prochain. Et surtout savoir ce que ce mot veut dire avec l'adjectif premier. Ces actes ont été érigés en normes temporelles, c'est le mot « ratu ». Et une norme temporelle qui est donnée au trompeur, Drogvant, à l'achavan, l'harmonieux, et à celui dont les parts de tortueux et de direct s'équilibrent. Il y a donc un temps temporel, un temps rituel dévolu à celui qui est du côté de Hacha ou à celui qui est du côté de la Drouch. Et puis, il y a quelqu'un, ça, c'est la seule fois que le texte des Gata nous apprend son existence, quelqu'un qui est un peu les deux. Hein, un peu les deux. Il y a une part de tortueux et une part de direct. Nous allons y revenir. Lisons les trois premières strophes qui sont blame. D'une part, celui qui fait du mal au trompeur par la parole, la pensée ou les mains, ou celui qui identifie son hôte au bon moment, cela comble la volonté d'Ahura Mazda à sa grande joie. D'autre part, il y a balancement. Celui qui se montre très bon pour l'harmonieux, avec sa famille, son clan, sa tribu, ou en vouant son labeur à la vache, au Ahura, que celui-là soit sur la pâture de l'agencement et de la bonne pensée. Je voudrais ici faire remarquer qu'il y a dans le problème que pose ce texte, nous l'avons vu, mais nous avons vu qu'on ne... Nous avons dégagé une petite possibilité d'interprétation. La rhétorique des Gata est une rhétorique praise and blame. On loue par moment, bien entendu, le côté d'Acha et on maudit le côté de la Drouch. Il y a en quelque sorte des méchants dans les Gata, des méchants qui doivent être chassés, qui doivent être tués, etc. Qui sont-ils exactement? De qui s'agit-il? Nous avons eu un aperçu de cela, la leçon dernière, en lisant cette étrange dernière gatha qui mime un combat entre bons et méchants pour la possession rituelle de l'aurore. Hein, pour la possession rituelle de l'aurore. L'idée que les Drogvant en question seraient un adversaire religieux est peut-être un peu simpliste. Il y a autre chose. Si c'est un combat pour la possession de l'aurore, les méchants, ça peuvent être représentés les forces de la nuit et des ténèbres. Nous allons voir comment cette idée de temps, justement, le mot ratu est ici dans la première strophe, n'est-ce pas, va se développer dans la gatha. Or, voyez qu'il s'agit d'une part de faire du mal aux méchants et d'autre part de faire du bien à ceux qui ne le sont pas. Mais chaque fois, chacune de ces deux strophes, la deuxième et la troisième, comporte un élément qui échappe à cette idée de faire du bien ou de faire du tort. Et c'est un élément qui est rituel. Dans la deuxième strophe, il y a quelqu'un qui identifie son hôte au bon moment. Identifier son hôte au bon moment. Et dans la troisième strophe, il y a celui qui voue son labeur à la vache. Voici notre vache sacrificielle introduite. Alors, qui est l'hôte? En principe, c'est le feu. L'hôte par excellence, dans les textes indo-iraniens anciens, c'est le feu. Le feu est l'hôte des hommes. Atiti en indien, asti en avestique. Or, il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Nous avons soupçonné, il y a de cela deux ou trois leçons, rappelez-vous, que le Yasna 33 est le récitatif qui accompagne la libation, le pressurage d'abord, et puis la libation de Hauma, quoique le nom du Hauma ne soit pas mentionné. Très bien. Alors, s'il faut faire ici aussi une comparaison avec le Holmstone, rappelons-nous la situation de début du Holmstone, du récitatif de pressurage, très explicite, lui. Zarathustra est auprès du feu. Il chante les gata et le Hauma vient auprès de lui. Hauma se présente comme son hôte, Upa'i. Le Hauma vient auprès de Zarathustra et auprès du feu, car le feu est aussi le réconfort que l'on offre à l'hôte. Et il s'identifie. Il y a une identification, ce qui est aussi une procédure normale pour reconnaître un hôte. Qui es-tu? De qui es-tu le fils? Et c'est la question que Zarathustra pose, bien sûr, qui es-tu? À Hauma. Et en ce sens, il identifie son hôte. Peut-être avons-nous ici la première nuance qui nous parle d'un acte rituel que nous ne voyons pas, qui n'est pas clairement exprimé, mais qui est la préparation de l'offrande de Hauma. Alors, remarquez comme les strophes qui suivent articulent de manière syntaxique complète le passage à tout à fait autre chose, au moment sacrificiel en réalité. Alors, remarquez les trois strophes, 4, 5, 6, constituent un seul ensemble syntaxique et commencent par une proposition relative à la première personne du singulier. Moi qui. Pourtant, la première de ces strophes appartient encore à la phase blame. Il s'agit de clôturer la payasna. Et on introduit les choses qu'il faut exclure du sacrifice, les abstractions qu'il faut chasser du sacrifice, sont les entités, les abstractions, les allégories antonymes des bonnes allégories. Hein? Moi qui veux purger ton sacrifice au Mazda, de la surdité, Asrushtim, antonyme de Sraoucha, le fait d'entendre, de la mauvaise pensée, antonyme de la bonne pensée, l'indifférence de ma famille, indifférence, Tarumaiti, c'est l'antonyme d'Armaiti, la juste pensée, de la tromperie contiguë à mon clan, la tromperie est l'antonyme d'achat, l'agencement du monde. Alors, désormais, ça échappe à ce moment-ci. Les rouspéteurs de ma tribu, et je veux aussi purger la pâture de la vache du pire procédé mental. Ce dernier hémistiche contient une mention du nom de la pensée, ce n'est pas mana, c'est mantu, si vous vous référez au texte, et c'est avec cette mention de la pensée que commence le pressurage de Hauma, dans le troisième pressurage dans le rite d'aujourd'hui. Mais ce rite, comme nous l'avons établi, a toutes les chances d'être ancien, puisque c'est à lui que se réfère l'Avesta récent lui-même, dans le Yasna 27. Le Yasna 27 reproduit le début du pressurage gathique. Nous avons donc, semble-t-il, un rite extrêmement ancien et dont les rédacteurs de l'Avesta récent étaient encore parfaitement conscients. Alors, avec la strophe 5, un événement s'est produit, quelque chose s'est produit. Nous sommes toujours dans le même ensemble syntaxique, mais tous les éléments blame disparaissent. Moi qui, au temps du détellement, quand mes chevaux ne sont pas attelés, quand ils ne sont donc pas prêts pour le voyage, ou bien si le voyage est fini. Ça, c'est trompeur. Ça, c'est une de nos difficultés. Nous allons y venir. Moi qui invoque ton écoute, ce sera au chat, ton audience, ton attention auditive, ton attention auditive qui conduit si bien chacun, après avoir atteint le pouvoir de la bonne pensée sur la longue vie et les chemins directs menant à l'agencement sur lesquels, au Mazda, réside l'aura. Donc, apparition des chemins, acquisition par le sacrifiant de quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier qui est, d'une part, l'écoute des dieux, Sraoucha, et d'autre part, un pouvoir particulier, le pouvoir de sa pensée sur la longévité, sur la longue vie. Et les chemins apparaissent. C'est une idée qui est exprimée dans le premier chapitre de cette gyatha. Le premier chapitre est un yana, c'est une demande. Eh bien, ces thèmes apparaissent, mais dans une toute autre perspective. On demande à en profiter. Hein. Quand, disait-il, quand, dit le chantre dans ce premier chapitre, trouverai-je au Mazda un Srausha, une audience auprès de toi? Comment est-ce que je vais trouver le moyen de me faire entendre de toi? Et comment vais-je trouver vers toi aussi un gâteau, c'est-à-dire un accès, un mode d'accès, une possibilité d'arriver à toi? Mais ça reste quelque chose que l'on demande, ça reste dans l'ordre du yana, de la demande. Ici, les choses sont effectives. Les chemins pour aller à Mazda sont apparus, son attention auditive est acquise, et en même temps, le pouvoir du chantre, son pouvoir particulier, se trouve affermi. Le pressurage est en cours. Il a commencé dans la strophe précédente. Alors, de quoi est-il question? Ben, le thème du chemin, vous le savez bien. Les chemins sont apparus. Hein, nous pouvons faire l'hypothèse que l'aurore commence, que l'aurore apparaît. On va la voir se constituer doucement. C'est l'hypothèse que nous avons faite. On sort de la nuit. La gatha, la Unavaiti gatha, elle est très longue. Et jusqu'ici, il ne s'est rien passé du point de vue sacrificiel. On a espéré obtenir quelque chose, n'est-ce pas? La vache a proféré une plainte, nous avons lu son âme. Il y a des interrogations qui se posent. Comment savoir ceci? Comment savoir cela? L'incertitude pèse sur tout le début de la gatha. Nous avons une gatha où quelque chose est en préparation, et très longuement en préparation. Je fais l'hypothèse qu'il s'agit du lever du jour, pas où le rite va commencer. Il commence avec la dernière strophe, avec les derniers vers, pardon, de la quatrième strophe, avec le pressurage de Hauma, et désormais le texte s'éclaire, en même temps qu'il s'éclaire par l'aurore, n'est-ce pas, le procédé rituel apparaît. Alors, strophe 6, hein, on voit très bien ici, on avons littéralement le mot qui sonne le début de la phase rituelle, moi le zautar, moi le prêtre libateur, en principe le patron du sacrifice. Je n'ai jamais aimé la strophe 6, elle m'a toujours énervé pour une raison que je vous ai déjà expliquée, je n'arrivais pas, il faut se débarrasser de ces sentiments-là aussi, même si parfois il est justifié qu'un certain agacement naisse. Je ne suis pas le seul, je vais vous l'expliquer. Cette strophe-là, elle apparaît dans toute la littérature secondaire et même chez beaucoup de spécialistes. Et on en tire l'enseignement que Zarathoustra est né dans une famille sacerdotale. Parce qu'il se présenterait ici, tout est que le nom de Zarathoustra ne figure nulle part, il se présente comme un zautar. Je ne suis pas le seul à ressentir de l'agacement. Mon vieux maître Helmut Humbart, à 90 ans, dans sa dernière interprétation des gatha, a écrit très littéralement dans le commentaire de cette strophe, « Je me tue à répéter depuis 50 ans que le zautar n'est pas un prêtre par fonction sociale, mais que c'est un prêtre en exercice sacrificiel. » Car nous avons fait cette remarque, il faut la... Mais vous trouverez chez même parfois des spécialistes cette idée que, bon, voilà, le hotar, c'est le signe que celui qui parle à ce moment-ci, Zarathoustra ou un autre, est un prêtre. Bon, ben, oui, mais pas n'importe quel prêtre. Un prêtre dans l'exercice du sacrifice. Et le prêtre principal de la cérémonie. Car cela, c'est une constante indo-iranienne depuis les temps du Rig Veda jusqu'au Parsi d'aujourd'hui, que le zautar et le prêtre principal d'une cérémonie donnée. Donc, moi, le zautar qui est atteint ses chemins directs, je me réjouis, attention, ma traduction devient conjecturale, je me réjouis auprès de la très bonne passion que voici, de cette pensée là-bas, par laquelle l'aoura qui est le dernier mot de la strophe précédente, à penser que les travaux de pâture devaient être accomplis. Voici ce que j'attends, ô Ahura Mazda, à te voir et à m'entretenir avec toi. J'ai simplement voulu mettre deux choses en lumière. Vous pouvez peut-être souligner, si vous voulez, en ondulé pour indiquer que c'est conjectural jusqu'à accompli. Pourquoi ai-je traduit ? Parce qu'il y a quelque chose qui ressort tout de même et que j'ai voulu faire remarquer dans ma traduction. C'est qu'il y a un contraste entre un ablatif, donc une origine, la chose dont on part, et qui est le maniou, avec le pronom démonstratif. Le pronom démonstratif rapproché, hein, le maniou que voici, hein, le maniou que voici. Je traduis maniou par passion, comme l'a suggéré Charles Malabou. Changez sans doute d'avis, mais prononce-la, hein, prononce-la ici. Et cette pensée, là-bas, avec le démonstratif lointain, à l'instrumental. Il y a un passage d'un ablatif, un dérivé du nom de la pensée, maniou, hein, à l'ablatif portant le démonstratif proche, un autre dérivé de la pensée à l'instrumental, manar, portant le démonstratif lointain. Alors, si la strophe 5, si la strophe 5 constatait le début de la perception auditive par les dieux, ici, c'est la vision des dieux qui est acquise, on les voit. Voici ce que j'attends, Ouawa Mazda, à te voir et à m'entretenir avec toi. On peut parler directement aux dieux et on les voit. C'est la perception visuelle qui se concrétise dans cette strophe-ci. Et alors, ce que j'attends, c'est un verbe peut-être même un peu faible. Le verbe utilisé, isia, dans le texte, peut être traduit avec un sens plus fort, c'est exiger, exiger. Ça nous paraît un peu bizarre d'exiger des dieux, mais bon, c'est peut-être la meilleure traduction. Voici ce que j'exige, ô Ahura Mazda, à te voir et à m'entretenir avec toi. Les strophes 7 et 8 qui suivent disent ce qui est attendu, hein, et elles commencent chacune par une forme impérative. Aïdoum, dans un cas, et Ama Aïdoum, demandez-moi, et Fro Moi Fravoisdoum, dans la strophe 8, présentez-vous à moi. Donc, demandez-moi les meilleurs. Alors, j'ai mis X parce que c'est un cas d'ellipse, et c'est un cas où je n'ai pas voulu le résoudre. Je le regrette un peu. Parfois, on change d'avis même sur une semaine. Mais pourquoi pas, nous sommes ici pour faire de la science en train de se faire. Peut-être est-ce hypercritique. C'est un de ces cas où il est assez facile de résoudre l'ellipse en faisant simplement appel à un objet interne. Faites-moi les meilleures demandes. Hein, faites-moi les meilleures demandes. Personnellement et hardiment, au Mazda, par l'agencement et la bonne pensée, par laquelle je suis entendu au-delà des bienfaiteurs. Là, l'ondulé en dessous, si vous voulez, être entendu au-delà des bienfaiteurs, j'ai traduit mécaniquement, mais je ne comprends pas. Hein. Je n'ai pas voulu laisser les trois petits points. Où sont mes zones de trouble ? Eh bien, au-delà, par eux dans le texte. Lorsqu'on a une préposition ou un adverbe comme « par eux », la graphie du védique le rend assez insaisissable, mais il semble bien que ce soit l'adverbe ou le préverbe, ou la préposition, pardon, qui signifie « au-delà d'eux ». Et quant à Magavan, nous connaissons le problème. Le Magavan, c'est quelqu'un qui a un rapport avec le mot « maga », un mot exclusivement vieil avestique, et que l'on traduit conventionnellement par « bienfait », mais c'est un mot qui est étroitement associé à l'énumération des noms propres. Alors, quel est le rapport entre le Magavan et celui qui a le Maga ? À l'époque des textes vieil avestiques, Éric Pirard et moi avions cru, pour des raisons que je ne peux pas confirmer aujourd'hui, je ne leur accorde plus la même, peut-être la même autorité, que le mot était négatif. Mais il faut faire attention à des hypothèses comme cela. Je préfère aujourd'hui vous dire, attention, ici, nous sommes dans une zone d'ombre. Nous ne savons pas très bien ce qui est entendu. Mais remarquez tout de même, hein, tenons-nous quand même aux quelques éléments de certitude dont nous pouvons disposer. C'est le verbe entendre à nouveau. C'est toujours, nous sommes toujours dans le contexte de la perception. Hein. Perception, c'est le retour à la perception auditive. Et alors, à nouveau, la clarté et les choses visibles que manifestent entre nous soient les clairs cadeaux de l'hommage. Les choses sont devenues manifestes. Les cadeaux que nous nous faisons sont clairs ou éclairés. Je pense que ici, c'est la progression de la lumière, à nouveau, qui est indiquée par ce genre de choses. Et tout de suite, le mot le plus fort, le plus intense que l'on puisse choisir pour, dans l'ordre du rituel, déguiser les cadeaux que l'on fait aux divinités, le mot rati, qui est le mot même de la générosité la plus dispendieuse. C'est le mot le plus fort pour désigner le cadeau qui apparaît immédiatement à ce moment-ci. Et la deuxième demande est très claire à ce moment-là, c'est le mot yasna qui va être introduit, le mot sacrifice. Et le texte que nous avons ici nous dit « Présentez-vous à moi comme des objectifs ». Le mot « objectif », hein, je ne sais pas s'il apparaît clairement, mais c'est le but du sacrifice. C'est le mot « artha », c'est l'indien « artha » d'ailleurs, c'est la cible sacrificielle. « Présentez-vous comme les buts de mon sacrifice. Présentez-vous à moi comme des objectifs, vu la bonne pensée par laquelle je veux activer le sacrifice qui vous est dû au Mazda. » Et les paroles qui font l'éloge de l'agencement. Vous avez fait de l'immortalité, de la jeunesse avec la force et de la santé votre ration rituelle. Donc le don d'immortalité qui est fait au Dieu, le don d'immortalité qui leur est fait très probablement par l'offrande de Hauma. Le rapport de cette strophe avec éventuellement le contexte haumique est le suivant. Souvenons-nous de la structure du Homestorm. Dans le Homestorm, c'est du Yasna 9.1 jusqu'au Yasna 11.10. Et puis, quelques strophes. En réalité, le Yasna 11 comporte 19 strophes. Sont des déclarations rituelles. C'est ce que nous avons appelé, on a fait cours là-dessus il y a quelques années, hein, ce que j'ai baptisé la zone des déclarations. Parce que les prêtres font les premières déclarations rituelles après avoir consommé deux fois l'Aouma. Et le Yasna 12, strophe 1, c'est le Fravarané. Mais ça, je vais y venir, c'est-à-dire, c'est la déclaration du choix de la cible sacrificielle. Remarquez que nous ne sommes pas dans le même contexte lexical. Il est question de cible sacrificielle ici, mais c'est un autre mot, c'est le mot gatique. Ce n'est pas Fravarané, c'est le mot Artha. Nous sommes dans une autre perspective. Ça, je me réserve d'y revenir un instant. Mais, dans les déclarations rituelles, le Yasna 11-19, c'est-à-dire la dernière strophe des déclarations qui viennent à la suite du Homestorm, très succinctement, deux mots, déclaration de deux mots, Staumi Hashem. Je fais l'éloge de l'agencement. Je fais l'éloge de l'agencement. Qu'avons-nous ici? Asha Staumia. Je mets en œuvre les paroles qui font l'éloge de l'agencement. Alors, nous. Le don d'immortalité est fait au Dieu. Alors, l'étrange strophe 9, elle est, je ne veux pas m'engager, vous savez, vous avez la photocopie des textes vieil avestiques, vous voyez qu'ici, Pirard et moi avons été extrêmement peureux et extrêmement honnêtes aussi, je m'offre cet éloge, parce que nous n'avons pas traduit grand-chose, il y a beaucoup de difficultés. Mais tout de même, le mot maïta, qui pourrait être le sujet, le mot maïta, c'est le mouvement de ping-pong. Hein? C'est le mouvement de ping-pong. C'est quelque chose qui alterne. Quelque chose qui alterne. Qui va d'un côté, un mouvement de va-et-vient entre deux côtés. Ça peut être quelque chose de positif. Hein? Ça peut être quelque chose, une collaboration. Hein? Collaboration. Ça peut être quelque chose de négatif. Hein? Par exemple, une rivalité, un combat. Votre adversaire, c'est celui qui occupe l'autre côté, bien sûr, du filet de ping-pong, si vous voulez. C'est une histoire de renvoi, de riposte. Hein, le jour et la nuit, ce verbe mythe indique l'alternance du jour et de la nuit. Alors, je me suis hasardé à traduire la semaine dernière « usage alterné ». Alors, le reste est assez clair, que mon usage alterné, cela c'est le mot un peu, oui, à quelques hardiesses, t'apporte pour bien-être au Mazda, avec très bonne pensée, la passion des deux Saroïdia. Je ne traduis pas le mot, mais j'y viens. J'insiste immédiatement, c'est un duel. Il s'agit de deux éléments, bien sûr qui sont en combinaison avec l'usage alterné de l'un et puis de l'autre. Pourquoi ne connaissons-nous pas le mot? Simplement parce qu'il a un équivalent védique, mais cet équivalent védique est lui-même un apax, et nous ne voyons pas très bien comment le traduire, ni par l'étymologie, ni par le contexte. Le mot chardia, on védique, une fois dans le Rig Veda, chardia. Et c'est un adjectif qui définit une qualité d'un char. Bon. Et ces deux Saridia accroissent l'agencement. Alors, l'association de ces deux choses, représentée ici par un pronom personnel, l'association de ces deux dont les âmes s'harmonisent a été mise en mouvement. Le mouvement est une qualité partagée avec le char, selon le Rig Veda. Quelle est la qualité la plus fréquemment dévolue, attribuée à un char dans le Rig Veda ? Il fait du bruit. Il fait du bruit. Ce qui convient particulièrement bien à notre contexte, n'est-ce pas, à notre contexte de la perception auditive et visuelle. Le char, le char a des roues qui résonnent. Hein, le char aux roues retentissantes. C'est une hypothèse, elle est très évasive. Mais le mouvement alterné de deux choses qui pourtant, en alternant, sont harmonieuses. Alors, je fais une hypothèse, elle est gratuite, mais si nous sommes en contexte haumique, pourquoi ne s'agirait-il pas des pressoirs, n'est-ce pas ? Pressoirs de soma, qui, des deux pressoirs, le pressoir supérieur et le pressoir inférieur, dont le mouvement est alterné, il faut glisser les branches dans le passage, comme le dit le Holmstone, dans le pressoir inférieur, puis abaisser le pressoir supérieur pour faire jaillir le colostrum de la plante. Ça pourrait convenir. Selon le Yasna 27, justement, les pressoirs sont le bruit du pressoir. Les pressoirs sont retentissants, on les entend. On les entend et c'est une des choses qui contribue avec les prières, avec le chant, à attirer l'attention auditive des dieux. C'est une des deux attractions auditives du sacrifice. C'est le bruit des pressoirs et c'est le chant des mots. Hein, le chant comme dirait le Rig Veda, le chant des mots, mais aussi le chant de la pierre a pressuré, bien entendu. Hein, et alors, et aussi cette idée d'être mis en mouvement. C'est pas, les pressoirs sont évidemment activés. Dès lors, puisque nous sommes désormais, la strophe 10 introduit quelque chose d'autre. J'ai restitué le mot « les femmes », car ce sont des entités féminines qui se trouvent ici. Les bien-vivantes, toutes tes femmes si vivantes, je tire le nom « femme, épouse » du pronom possessif, hein, comme cela est régulier. Ben, toutes tes bien-vivantes, si vous voulez, mais ce sont tes épouses, celles qui ont été et celles qui sont, et celles qui seront au Mazda, fais-leur partager ton plaisir, partage des offrandes. Moi, par la bonne pensée, le pouvoir et l'agencement, je crois à volonté de tout mon corps. Voilà donc ici l'intrusion du monde matériel, car les épouses de Mazda, si nous nous référons au contexte du Yasna Haptenkaiti, le sacrifice du Yasna Haptenkaiti, c'est le sacrifice pour les entités immatérielles dans le premier chapitre sacrificiel, le Yasna 37, puis les entités féminines incarnant les éléments du monde matériel, la terre, les eaux, les plantes, dans le Yasna 38. Et l'offrande de Hauma fait apparaître les entités du monde matériel, Et alors, cette idée tout à fait haumique aussi, n'est-ce pas, que la consommation de hauma fait grandir le corps. Le monde matériel est là aussi, première fois que peut-être, c'est très rare dans le contexte gathique, pas le mot corps, le corps contenant, le corps matériel que nous avons, tanou, est un mot qui n'est pas du tout fréquent parce que les choses matérielles ne sont pas fréquemment évoquées dans le texte de la Gatha. Et puis l'appel à l'attention auditive, que avec le Srauta, l'écoutez-moi, dans la strophe 11, Ahura Mazda qui confère si bien le gonflement, juste pensée, agencement qui multiplie les êtres vivants, bonne pensée et pouvoir, écoutez-moi, ayez pitié de moi lors de chaque présentation d'offrande. Et dans le rite d'aujourd'hui, c'est lors de l'énoncé du dernier hémistiche, donc lors de chaque présentation d'offrande, lorsque l'on dit ces mots-là, c'est-à-dire « Adai karyachit paiti » dans le texte, c'est à ce moment que l'on fait la libation de Hauma sur le sol, à côté du feu rituel. Ce n'est pas un hasard si ici, n'est-ce pas, encore Ahura Mazda apparaît avec son adjectif « sevishto », c'est-à-dire celui qui donne au mieux le sava, le gonflement dont nous avons parlé dans la vision eschatologique, et aussi si l'agencement « acha » est aussi celui qui multiplie ici les êtres vivants. Là, c'est la permanence du motif du monde matériel qui se maintient dans cette strophe-ci. Et avec les strophes 12 et 13, nous les avons aussi commentées, il y a progression de la lumière, puisque « lève-toi devant moi » ou « ahura », c'est le verbe même qui exprime « uz arjva », le verbe même qui exprime le lever du soleil. De la juste pensée reçoit la jeunesse, de la bonne présentation d'offrande la vivacité, de l'agencement la force dominante agressive, de la bonne pensée la fsoratou. Ça, ce mot-là, c'est pas du tout inanalysable. Mais c'est une force semblable. Reçoit tout cela de la passion très bienfaisante au Mazda. L'image est, bien sûr, elle est estompée pour nous, n'est-ce pas, mais c'est le verbe du lever du soleil. Mazda est littéralement présent dans cette strophe comme s'il était le soleil. On a l'impression qu'à travers cette strophe, c'est le lever du soleil avec la force augmentante en permanence du soleil qui se lève, qui est évoquée ici. Et ceci se confirme dans la strophe 13, comme nous l'avions vu, « À mon aide, toi qui as vaste regard ». Vurushachane, indien Urushakshas, celui qui a un vaste regard, celui dont le regard s'étend au loin, qui est l'épithète même du soleil. Alors, un mot est connu encore. Montre-moi quels sont vos abhifras. Ceux du pouvoir, ô Ahura, sont le mouvement de la bonne pensée. Ô juste pensée bienfaisante, propulse les visions selon l'agencement. Le verbe fradakshaya, le verbe daksh, c'est le geste du frondeur, c'est lancer quelque chose à la fronde. Donc, je traduis par propulser. Il y a quelques petites choses remarquables dans ce dernier vers. Et le rédacteur du Videvdat, du chapitre du Videvdat qui est inséré, pas ici, mais après une gyata un peu plus lointaine, a cité ce vers du Yasna 13. Et il a mis l'accent ensuite sur la répétition du Mospenta. N'oublions pas qu'Armaïti, c'est la seule des entités des allégories de vieille avestique dont nous savons qu'elle est à la fois abstraite, la juste pensée, c'est comme ça, c'est son nom. Sa valeur abstraite se lit dans son nom, mais c'est la seule dont on sait aussi qu'elle est la terre. Elle est la terre. Et cela, ça apparaît clairement dans l'Yasna Abdankaiti. C'est la seule entité dont la double nature, abstraite et matérielle, soit explicitement évoquée dans la Vesta, y compris dans les Gathas. Pas l'enquête de Nartène à cet égard n'a laissé absolument aucun doute. Armaïti et la Terre, de manière extrêmement explicite. C'est une chose dont on ne peut même pas discuter, alors que toutes les autres entités, toutes les autres allégories restent toujours abstraites. Mais ce que remarque avec cela l'auteur du Visprat, c'est qu'à ce moment-ci apparaît pour la première fois dans la Gatha, et ça va se maintenir dans l'Yasna 34, la qualification d'Armaïti par Spenta. Je ferai très volontiers l'hypothèse. Je dirais, j'avance beaucoup de choses que je ne peux pas démontrer, mais excusez-moi, je vous livre un peu des impressions. Je ferai très volontiers l'hypothèse que la Terre, Armaïti, est devenue Spenta pour la première fois à cause de la libation de Hauma qu'elle a reçue. Que c'est la libation de Hauma qui lui, comme nous allons voir, observer le même effet sur l'homme, hein, le même effet sur l'homme. La Terre, à ce moment-ci, acquiert une qualité particulière, et c'est d'elle que vient la lumière de l'aurore. C'est à elle de propulser, comme avec une fronde, la capacité de vision qui apparaît avec l'aurore. Je profite de ce moment-ci pour vous signaler quelque chose que j'ai omis la fois dernière. C'est ceux d'entre vous qui souhaiteraient en prendre connaissance, cet article déjà ancien du début des années 90 que j'ai publié, où j'avais proposé de reconnaître l'aurore védique dans le motif avestique de la Daina, est paru dans un volume qui s'appelle Studies in Mithraism, c'est les actes d'un colloque qui s'était tenu à Rome en 90. Mais ceux d'entre vous qui voudraient prendre connaissance de cet article peuvent s'adresser, je crois, à Mme Azarnouche pour avoir une copie électronique, si je ne m'abuse. Je la remercie pour ça. Donc, la propulsion de l'aurore par la Daïna. Et puis, voici que Zarathoustra, en premier cadeau, fait don à Mazda et à l'agencement de la mobilité de son corps et de sa bonne pensée, de la sonorité et du pouvoir de l'acte et de la parole. L'association finale préparée dans la strophe 5 entre la perception auditive des dieux et le pouvoir rituel du sacrifiant qui est augmenté par le fait qu'il peut désormais entendre et voir les dieux, être entendu et être vu d'eux. Bien, ce que nous avons, le don de l'Ushtana, le don de la mobilité de son corps, don de la mobilité de son corps, c'est aussi un acte du rituel haomique, puisque la strophe 18, Yasna 11-18, l'avant-dernière déclaration, est fait exactement, avec une reprise de mots, hein, c'est quasi une citation, mais à la première personne du singulier, j'offre Rahi, la mobilité de mon propre corps. L'officiant qui vient de boire pour la deuxième fois le Hauma fait don de l'Ushtana de son corps. Cela signifie, dans le contexte rituel, ça paraît beaucoup mieux, bien sûr, dans le contexte du Wurmstorff, c'est que l'officiant, en réalité, en buvant le Hauma, procède à son auto-immolation symbolique. Il s'auto-sacrifie symboliquement. Il donne son corps à Hauma. Le dieu n'a plus de corps, en buvant Hauma, il lui rend un corps. Il ressuscite le dieu et lui donne son corps. Bon. Donc il est lui désormais privé de son corps. Hein? Son corps est devenu le corps parfait du dieu. Bien. La deuxième ingestion est une demande eschatologique et elle est suivie du don de l'âme mortelle de son corps. Que reste-t-il du sacrifiant après cette double aliénation, celle du corps et celle de l'âme mortelle? Ben, il lui reste son âme immortelle. Lui reste son âme immortelle, son urvan. Il est réduit à un urvan, n'est-ce pas ? Et c'est sous cette forme qu'il va sacrifier. C'est sous cette forme qu'il va prononcer le Fravarane. Il va prononcer le Fravarane. Mais aussi, à la fin du Fravarane, Yasna 12.9, après le Fravarane 12.9, c'est la dernière strophe du Yasna 12, c'est un autre texte. Il dit Astouye, il se constitue une Daïna, il se constitue une Yaïna. En quelque sorte, il y a échange. Il y a échange. Le sacrifiant a troqué son nushtana, son âme mortelle, pour une daïna. Mais il s'est constitué une daïna. C'est la même chose que nous avons ici, n'est-ce pas ? La terre va propulser la lumière du jour, la vision, va offrir la vision, l'âme daïna du sacrifiant, l'âme, son âme voyance, comme j'ai traduit pendant longtemps, et le sacrifiant, lui, abandonne son nushtana. L'ordre des choses est un peu différent dans la perception des choses de l'Avesta récent, n'est-ce pas ? Il y a d'abord abandon de l'ushtana, puis fravarané, puis la constitution d'une daïna. Et à ce moment-là, le sacrifiant sera opératoire. Hein, il pourra procéder au sacrifice, il va pouvoir agir. Hein, mais tous ces préliminaires sont nécessaires. Il doit se mettre en état de condition rituelle. Et quand la daïna a été constituée, le sacrifiant est devenu saushyant. Il a acquis sa fonction sacrée. À l'intérieur du sacrifice. Dans l'Avesta récent, ce processus est très clair. On verra aussi Saushyant apparaître ici. Et nous regardons désormais comment les choses vont évoluer avec le début du Yasna 34. N'oublions pas que nous travaillons dans la perspective, nous, ici, où les Haïti ne sont pas indépendantes. Le développement, c'est la gata qui est l'unité, les Haïti sont de sous-unités, mais nous passons à autre chose. Depuis la strophe 5, l'acquisition du kshatra et du srausha, un mot est devenu, comme dans le Homestorm, extrêmement fréquent. C'est le mot pensée. C'est le mot pensée. Vohumana apparaît dans toutes les strophes. C'est un mot fréquent, mais tout de même pas. Mais tout de même pas présent, pas permanent, comme Ahura Mazda. Il n'apparaît pas dans toutes les strophes, Vohumana, tout de même. Il est très fréquent, mais pas dans toutes. Or, ici, c'est massif. La remarque en avait déjà été faite par Hans-Peter Schmidt. C'est un mot qui imprègne massivement tout l'Yasna 33. C'est aussi un élément haolique, évidemment, n'est-ce pas ? Car lorsque le récitant du Homestorm boit pour la première fois le haoma, le nom de la pensée devient permanent aussi dans le Homestorm. Or, le Yasna 34, nous trouvons la triade. La triade ouvre la strophe. L'acte, la parole et le sacrifice par lesquels tu t'empares de l'immortalité, de l'agencement et du pouvoir sur la santé, ou Ahura Mazda, nous te les offrons sans cesse. Regardez que la triade, parole, pensée, acte, il y a substitution. Le mot, désormais, c'est le mot Yasna, qui est substitué au mot pensée. On passe à autre chose, et cette autre chose, le rite haomique est terminé, et nous l'avons établi lors des leçons. C'est à présent l'offrande carnée, hein, l'offrande de la chair animale, ce qui s'exprime dans la strophe 2. Tous te sont donnés, c'est-à-dire tous les actes, paroles, sacrifices, d'une part par la pensée de la bonne passion, d'autre part, par l'acte de l'homme bienfaisant, dont l'âme s'unit à l'agencement, quand le chant d'adoration qui vous est dû au Mazda s'entoure des êtres vivants avec les bienvenus des éloges. Je voudrais vous faire remarquer que l'homme aussi, n'est-ce pas, l'homme qui a fait l'abandon de son nushtana, ici aussi, il est spenta. Il est spenta. Il y a mention explicite de son âme. Parce que c'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste. Hein? Il a abandonné son corps et il a abandonné son âme mortelle. Donc le texte mentionne exactement ce que nous pouvions attendre logiquement, l'état nouveau acquis par l'homme qui a participé aussi à l'ingestion de Haoma et qui maintenant est dans l'état rituel requis pour procéder à l'immolation animale. Et c'est dans la strophe 3, je ne m'attarderai pas beaucoup sur elle, car nous avons vu quel était le témoignage le plus explicite dans le texte gathique du moment de l'immolation. Nous déposons en hommage comme offrande solide, c'est le miasda, pour toi, ou Ahura, et pour l'agencement, à l'endroit même de ton pouvoir, tous les êtres vivants que vous avez engraissés de bonnes pensées, car c'est par eux, au Mazda, que le gonflement du généreux a été mis en mouvement parmi vous. Une petite hypothèse supplémentaires qui ne figurent pas. Je me demande si le gonflement du généreux, je ne devrais pas plus mettre le féminin et dire le gonflement de la généreuse, étant donné que houda est le terme même qui caractérise la vache. Le gonflement que vous donne l'offrande carnée, l'offrande de l'immolation de la vache. Et puis la strophe qui semble correspondre à l'offrande de chair ou de graisse portée dans le feu. Et nous voulons que ton feu, ô Ahura, soit fort par l'agencement, instructeur et agressif, pour apporter à celui qui le favorise une aide claire, mais à celui qui lui nuit, au Mazda, un tort visible par les projectiles de ses mains. Les flammes sont métaphoriquement comparées à des mains. Le feu est par excellence celui qui a des mains. Voyez qu'il est question d'un feu et de sa puissance, n'est-ce pas ? C'est ce qui réfère très probablement à l'activation de la flamme par la graisse de l'offrande. Le feu devient, si c'est faire une offrande de graisse dans le feu, c'est évidemment faire monter la flamme. C'est d'ailleurs le nom qui correspond à la fonction sacrificielle, puisque celui qui procède à cet acte rituel est l'atravaksha, celui qui fait grandir le feu. Alors, le reste est évidemment beaucoup plus, je l'ai traduit pour, par souci d'être véritablement exhaustif. Je ne voudrais pas commenter beaucoup des passages que je comprends moins bien. J'attire votre attention sur la strophe 7, où il est question du nom des prêtres en exercice sacrificiel, mais sans qu'ils soient... c'est la désignation générale, ce sont les ardras, les prêtres compétents. Il n'y a pas ici spécialisation des fonctions, c'est la désignation des membres du collège sacerdotal en général. Alors, ceci est un peu curieux, je ne sais pas comment il faut le comprendre. Par leur capacité à repérer la bonne pensée, ils ne cessent de changer même les choses néfastes en restes notoires. Ça, c'est une notion qu'il faudra peut-être examiner, mais je ne sais pas si ce n'est pas désespéré vu la faible fréquence du mot. C'est la notion de reste. C'est la notion de reste. Le mot est sûr, il est clair, nous le connaissons bien, reknas. C'est le mot sanskrit reknas, de même, ce qui reste. Or, c'est un mot qui joue un certain rôle à la fois dans le Rig Veda et dans le. Il a été traduit de façon très certainement anachronique, pas par les bons philologues bourgeois du XIXe siècle, par héritage, mais je doute que ce soit un mot qui soit d'utilisation, que ce soit un mot utilisable dans le contexte de l'an 1000 avant notre ère. La notion de reste doit très certainement représenter autre chose, mais c'est quelque chose de positif. Hein. Ahura Mazda est celui qui repère le mieux le reste. Qu'est-ce que cela veut dire ? On a fait plusieurs hypothèses, mais ce n'est pas... les choses frustrantes en Ucharu, là c'est le mot Ucharu qui est inconnu, et la demande de protection hein, qui est faite dès lors qu'il y a offrande dans le feu, je ne connais pas d'autre protecteur que vous, alors protégez-nous par l'agencement. Attention, je me corrige dans la strophe 8. Je me corrige moi, hein, c'est une autre interprétation. Je crois qu'ils ne nous effraient pas. Car ils nous effraient, non, ils ont peur de nous, c'est le contraire. Ils ont peur de nous. À cause des actes où tu lances l'abandon à l'écart du grand nombre, comme le plus fort, etc., etc. Je ne vais pas commenter ceci de manière... c'est un bref retour, pendant deux strophes, à la rhétorique blame. Or, regardons bien, je ne comprends pas bien ce qui se trouve dans ces deux strophes, mais le réseau verbal, lui, est clair. Ce sont des verbes qui désignent l'action de ceux qui, dans un voyage, un déplacement, n'oublions pas les déplacements nomades, hein, nous sommes donc très probablement dans une société nomade, ce sont ceux qui, au cours d'un déplacement, se perdent, s'égarent. Brutalement perdre le contact avec le groupe. L'abandon, tiajas, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est la perte de contact avec le groupe. C'est un des plus grands malheurs qui puisse vous arriver, c'est fatal. La perte de contact avec le groupe. Tu lances parmi eux l'abandon par rapport au grand nombre, l'abandon à l'écart du grand nombre. Ils laissent derrière eux, avazazat, hein, ils laissent l'écart se creuser entre eux et la bienfaisante juste pensée. Et alors, il faut aussi qu'elles les tiennent à l'écart. Elles tiennent à l'écart du groupe. Elles l'éloignent d'eux. Le verbe est siazd. Siazd. Je ne garantis pas tous les mots de la traduction, mais je relève un réseau verbal qui simplement signifie cela, n'est-ce pas ? Signifie de la... ce sont des gens qui se perdent en chemin, et effectivement, ici, je pourrais être très bref. Nous allons arriver au thème général du chemin, hein, de la daïna, du gonflement et de la vision des Saoxian dont nous avons parlé plus récemment et qui occupe la strophe 13, qui permet le gain du prix de victoire mentionné dans la strophe 14. Et ce prix de victoire qui... doit consister en ce fait que l'état d'existence devienne un jour, en tout cas, parfait et permanent. Alors, je voudrais quand même ici conclure sur l'eschatologie. Nous l'avons vu que l'eschatologie individuelle dans les gathas est un peu anecdotique. Une fois par gatha, une strophe est consacrée au malheur qui attend dans l'au-delà les mauvais. Une seule strophe nous parle du paradis de façon très abstraite, comme l'endroit où sont déposés les bons actes rituels. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas l'eschatologie individuelle qui est en cause dans le rite gathique. C'est autre chose. Mais c'est quelque chose qui n'est exprimé que dans la dernière strophe de chaque gatha. C'est un prix de victoire qui est une modification de l'état d'existence. Cela, nous ne pouvons pas l'aborder par l'étude du rituel et de l'eschatologie. Il nous faudra l'aborder par, je vais dire, le biais d'une terminologie plus philosophique. Plus philosophique. Qu'est-ce que l'état d'existence ? Qu'est-ce que l'état maïnyava ? Qu'est-ce que l'état d'existence premier ? En réalité, quelle est la philosophie spéculative qui sous-tend ce rituel ? On ne peut pas résoudre le problème uniquement par l'observation du cursus rituel qui, on l'a vu, observe la progression du temps ici, qui vient, n'est-ce pas, s'insérer immédiatement dans le lever du jour, dans l'apparition de l'aurore et le lever du soleil, et qui remporte le prix de victoire au moment où le soleil apparaît dans le ciel, comme dans cette gatha. Il nous faudra, pour résoudre le problème de l'eschatologie collective et de l'attente eschatologique qui est incontestable dans les gathas, partir d'un autre point de vue. Ce sera notre travail de l'an prochain. Il y a autre chose aussi que je voudrais souligner en conclusion au cours de cette année, c'est qu'on voit que le rite gathique est un rite qui est étroitement lié aussi, comme le rite du yasna, à un ratu, c'est-à-dire à un moment de la journée. La gatha hunavaiti, c'est la lente attente de l'aurore. Puis, c'est l'apothéose de la lumière, de l'aurore, n'est-ce pas ? Et on procède au rituel haumique et à l'immolation animale. Les autres gathas observent probablement d'autres ratus. Attention que la gatha ushtavaiti, la seconde, qui la Vesta récente garde le souvenir, c'est un rite nocturne. C'est un rite nocturne. Et puisque le soleil ne se lève pas, même à la fin de la gatha, il n'y a pas de mijda. Je vais faire remarquer qu'au bout du chemin, il n'y a pas de mijda, pas de prix de victoire. C'est un rite de préservation nocturne. C'est l'hypothèse que je formule aujourd'hui. Quant à la troisième gatha, la Spanta Mainyu, la fin de cette gatha semble indiquer que le soleil est à son apogée. C'est un rite de midi, c'est un rite qui s'achève à midi. Donc alors, lorsque Marie-Jeanne Mollet écrivait « c'est un rite de nouvel an, c'est un rite de rénovation du temps avec le printemps », non, non. C'est au contraire un rythme, les textes observent un rythme journalier. Pour dire comme l'Avesta récent, c'est un rite asnia, quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de rite saisonnier, ça ne veut pas dire cela, mais ce n'est pas les textes que nous avons conservés. Il y en avait peut-être, hein, un ratu yairia, comme dirait l'Avesta récent, c'est-à-dire soumis aux grandes périodes, aux grandes divisions de l'année. Mais ça, si cela a existé, nous ne l'avons pas. Ce que l'Avesta récent nous a conservé au cœur de son rituel, parce que ça correspondait à sa propre division, hein, ce sont des rites quotidiens. Alors, je vais vous laisser sur ces mots. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez une question, allez-y, c'est la dernière leçon, je peux bien y répondre. Oui, madame. Non, 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 c'est pour cela que le mot peut être considéré comme inconnu, c'est hypothétique ce que je vous ai dit, c'est purement hypothétique. Non, non, je ne dispose de, non, non, je ne dispose d'aucun indice de ce type-là. Merci. Oui, monsieur. Partout, vous savez ça. Regardez bien, il y a des changements comme cela partout. Je voulais signaler au début. Ah, là, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous donner une solution à cela. C'est comme d'ailleurs l'exacte valeur de cette multiplication d'instrumentaux. Hein? Avec les noms d'Asha, de Vohumana et de Kshatra, j'ai laissé passer cela dans le texte. Hein? J'ai simplement voulu que ça apparaisse. Je n'ai pas uniformisé. Mais vous avez raison, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi passe-t-on de tu à vous de cette façon aussi désordonnée, je ne sais pas. Hein? Bien, alors je vous remercie encore une fois.